en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Alors, quelle va être l'attitude des élus face à ces CRCM et face à ces lieux de friction, à ces points de friction dont je parlais tout à l'heure? On va voir des pratiques extrêmement différentes selon les communes et selon les collectivités locales, et ça va aller du laisser-faire le plus entier jusqu'à l'interventionnisme le plus autoritaire, dont nous avons quelques exemples savoureux. La première question que vont se poser les élus, ils vont trouver une communauté musulmane extrêmement morcelée, des communautés issues des différentes diasporas, maghrébines, africaines, proche-orientales, turques, etc. Et ils vont se demander à qui vais-je m'adresser et qui vais-je choisir comme interlocuteur représentatif. Ils vont avoir face à eux des clivages nationaux, algériens, marocains, turcs, comoriens, africains de divers pays d'origine. Ils vont avoir des clivages idéologiques, le tablir, les frères musulmans, les salafistes, un islam plus traditionnaliste. Ils vont avoir aussi des clivages historiques, selon les différentes strates d'immigration, les harkis, les primo-arrivants, les étudiants étrangers, les deuxièmes générations. Comment choisir et à qui s'adresser? Je pense que beaucoup d'élus vont raisonner, ça dépend de la composition sociologique de leur ville, à partir de l'opinion publique non musulmane. Et pour cette opinion publique non musulmane, le critère idéologique qui va être déterminant, c'est celui du bon islam. L'édile, l'élu, le maire, va donc devoir montrer qu'il a fait le bon choix en choisissant des musulmans modérés, des musulmans qui nous ressemblent quelque part et qui soient d'un abord rassurant. Alors, évidemment, quand vous choisissez le curseur, quand vous choisissez le choix idéologique, le critère idéologique, tout dépend où vous allez placer le curseur. Selon que vous le placerez un peu plus au centre, à droite, à gauche, vous allez accepter de dialoguer, je ne sais pas, avec la mosquée de Paris, avec le tablir, avec les frères musulmans, etc. Bon. Et tout est une question d'échelle. Et puis, ces échelles peuvent varier aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des modérés peuvent être estampillés comme durs, et vice-versa. Prenez le cas de l'Arbi Keshat à Paris, dans la mosquée Adawa, qui a été enfermé à Folembray comme un dangereux terroriste, et puis relâché, parce que on s'est aperçu que Charles Pasqua était allé peut-être un peu fort. Bon, après l'explosion d'AZF à Toulouse, c'était Mamadou Dafé qui s'était vu un peu montrer du doigt, parce que, soi-disant, l'ouvrier qui portait 5 slips, qui était mort dans l'explosion, connaissait un homme qui fréquentait la mosquée de Mamadou Dafé. Voilà. Donc le curseur peut bouger aussi. Et puis, il y a quelques villes qui font exception, où les populations musulmanes sont presque majoritaires. Et à ce moment-là, les élus prendront en compte le poids de l'opinion musulmane. C'est le cas, par exemple, à Roubaix ou dans la banlieue lyonnaise, à Vénissieux. Et encore, ce n'est pas toujours le cas, car il y a une composante de sociologie électorale qui est bien connue des élus, à savoir que les musulmans s'abstiennent peut-être plutôt plus que les non-musulmans. Et donc aujourd'hui, le vote musulman n'est pas quelque chose dont l'effet a été prouvé de manière sociologique. Alors, un maire va avoir une demande de création d'un lieu de culte, d'ouverture d'une mosquée. Comment va-t-il réagir et quelle attitude va-t-il adopter par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs cas possibles. Il y a d'abord ceux qui vont dire aux musulmans, écoutez, vous êtes très nombreux, vous êtes très divisés, moi, je veux bien vous donner un lieu de culte et même mettre un peu d'argent, bon, alors on va s'arranger, on va trouver des moyens, on va dire qu'il y aura une partie culturelle, bon, et puis la mairie pourra financer cette partie culturelle. Mais la seule condition, c'est que vous vous entendiez, je ne veux voir qu'une tête, je ne veux voir qu'un front commun. Bon. Ça a été le cas de Jean-Claude Gaudin à Marseille, qui a promis de longue date la création d'une mosquée, d'une grande mosquée. Le cas marseillais, d'ailleurs, est intéressant, puisqu'en fait, l'idée de créer une grande mosquée à Marseille remonte à 1920, si j'ai bonne mémoire, et c'était comme pour la mosquée de Paris, pour récompenser, remercier le sacrifice des musulmans morts pour la France. Lesquels musulmans, ou plutôt leurs descendants, attendent toujours la mosquée aujourd'hui. Alors, Jean-Claude Gaudin leur dit, débrouillez-vous, mais mettez-vous ensemble. Or, il se trouve que, pour faire simple, dans la mosaïque marseillaise, il y a deux pôles, grosso modo, qui émergent. Il y a d'abord un pôle algérien, autour du médiatique grand moufti de Marseille, Sohaib Benchaïr, et de quelques personnalités plus locales et moins médiatiques, comme Bachir Damani, qui est l'imam de la Caplette. Bon. Ce pôle algérien, même si ce n'est pas dit officiellement, a clairement les préférences de la mairie. Et puis, il y a un deuxième pôle indépendant autour du CIM, le Conseil des imams de Marseille, et de la mosquée Al-Islah. Mais, problème, l'imam de la mosquée Al-Islah, qui s'appelle Mourad Zerfaoui, qui est un Algérien proche des frères musulmans, mais sans lien avec l'UOIF, et qui est, par ailleurs, je crois qu'il est spécialiste en physique, c'est un scientifique, et un peu irrévérencieux, critique vis-à-vis de la mairie, etc. Enfin, on ne l'aime pas trop à l'hôtel de ville, quoi. Donc, les deux pôles n'arrivent pas à s'entendre, et le maire dit, si c'est comme ça, je renonce, et donc pas de mosquée. Et voilà, c'est ainsi que le projet de mosquée est retombé à l'eau. Alors que, chose curieuse, un sondage auprès des Marseillais laissait entendre qu'une majorité de Marseillais n'était pas défavorable et était plutôt acquis à l'idée de construire une mosquée. Le site avait été trouvé, c'était sur à proximité des abattoirs Saint-Louis dans les quartiers nord. En attendant, contre-exemple parfait, pendant le même temps, à Marseille, une association Tablieri construit, sans rien dire à personne, tranquillement, sa mosquée rue Malaval, à côté du cours Belzins, et installe deux ou trois étages, une terrasse et un minaret. Jolie terrasse, joli minaret, architecture assez bien intégrée dans la rue. Et puis la mairie s'y intéresse. Bon, elle commence à invoquer les règlements d'urbanisme, à dire telle et telle chose ne va pas, etc. Finalement, on trouve un terrain d'entente, on apprend à se connaître, on travaille ensemble. Et la mosquée du Tablé, rue Malaval, a été inaugurée la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Et là, aujourd'hui, le Tablier et la mairie de Marseille sont les meilleurs amis du monde. Comme quoi, finalement, le contre-exemple, le mauvais exemple et le bon exemple, le laisser-faire est peut-être parfois, ou tout du moins un accompagnement discret, la moins mauvaise des solutions. Alors, il y a l'autre cas aussi, cas peut-être un peu excessif, vous allez me dire, mais qui est du maire qui va choisir ses bons musulmans. Alors, le cas un peu caricatural, mais... pas tant que ça, c'est Georges Frêche, l'ancien maire de Montpellier, qui, lui, va dire, voilà, je vais choisir, donc, c'est un personnage, Georges Frêche, donc je vais choisir ce groupe, on va prendre des harkis, parce que les harkis récompensaient le sacrifice, etc., puis ils sont assez nombreux à Montpellier. Donc, il va leur donner une mosquée clé en main. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une usine de charcuterie, c'est déjà un petit peu bizarre pour des musulmans, mais enfin... c'était les jambons, je ne sais plus quoi, qui va rénover, transformer, et puis il va baptiser sa salle polyvalente, ce qui va lui permettre de le financer sur fonds publics. Et puis les musulmans, eux, vont ajouter des carreaux de faïence, là, tout autour, des beaux tapis verts par terre, et puis un petit bassin d'ablution devant, et on va baptiser ça pompeusement la mosquée Avicenne. Voilà. Le financement est entièrement public, à l'exception peut-être de l'aménagement intérieur. Et donc arrivent les dernières élections régionales et Georges Frêche se dit que c'est bien joli, il a pensé aux harkis, aux Algériens, mais il n'a pas pensé aux Marocains. Et il a pensé au quartier du Petit Bar, mais pas au quartier de la Paillade. Et donc, juste avant les régionales, il promet une mosquée, cette fois-ci, aux Marocains et dans le quartier de la Paillade. Même scénario, on construit une espèce de salle polyvalente qu'on fait financer entièrement sur fonds publics, et on la présente aux musulmans comme une mosquée. Alors on a donc deux mosquées qui tournent à peu près, mais qui sont très identifiées, j'allais dire ethniquement, nationalement, et dans lesquelles les jeunes musulmans de Montpellier ne se reconnaissent pas tellement. D'ailleurs, on les appelle les mosquées fraîches. Bon. Alors, moi je vois à travers ce genre de... Évidemment, on peut en rire, mais le danger d'une gestion perverse de l'islam par un certain nombre d'élus, où ces pratiques clientélistes, finalement, contribue à créer du communautarisme là où il n'y en a pas forcément. C'est-à-dire qu'on est en train de créer de toutes pièces une communauté musulmane qu'on aimerait, si possible, docile et votant pour soi. Alors, moi, je prévois, si vous voulez, que la question des mosquées va être réglée tout naturellement et très rapidement. Je suis sûr qu'en 2007 et en 2008, il va y avoir plein de projets de mosquées dans toute la France, et surtout avant 2008, et avant les municipales. Et c'est ça qui est terrible, si vous voulez, on peut en sourire, mais un dernier cas qui est lui aussi caricatural, c'est celui de Pierre Bédier, le maire de Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas s'il est encore maire de Mantes, d'ailleurs, mais en tout cas, il est député. Alors, il y a eu des législatives en 2004 à Mantes-la-Jolie, et pour les gagner, vous savez que Mantes, c'est très particulier, parce qu'il y a le vieux Mantes et il y a le Val-Fouré, qui est une espèce de ville en soi, avec une population, je crois, plus importante que celle du vieux Mantes. Et jusqu'à présent, il existait au Val-Fouré une mosquée marocaine assez belle, bien construite avec l'argent de la Ligue islamique mondiale et avec une clientèle, une fréquentation essentiellement marocaine, une petite salle de prière turque au centre commercial et puis une mosquée en sous-sol qu'on appelle la mosquée Radar dans le quartier Fragonard, qui est l'une des rares mosquées caves d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas tant de mosquées caves que ça, et qui était aux mains du Tablir, ce mouvement prosélyte de l'islam, les témoins de Jéhovah de l'islam. Bon. Et que fait Bédier avant les législatives? Il va voir les responsables du Tablir et il leur promet une mosquée, une vraie mosquée, et non plus un sous-sol. Et que se passe-t-il avant le scrutin? L'imam à la mosquée, lors de la khotba, le sermon du vendredi, appelle à voter pour Pierre Bédier, mais ça va plus loin encore, puisque les tabliers sont très doués pour ça, et en ce sens, Pierre Bédier avait été un fin politique. L'imam va faire du porte-à-porte, va dans la rue, et il va jusqu'à la porte des bureaux de vote, au Val-Fouré, pour inciter les gens à voter Pierre Bédier. Et effectivement, Pierre Bédier est réélu, et le tablier à sa mosquée, effectivement, le centre social de Fragonard a été reconverti et transformé en mosquée du tablier. Voilà, donc voilà le genre d'attitude auquel on assiste aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de la mosquée du Val-Fouré. Contrairement à un certain nombre de préjugés, l'islam des caves n'existe plus, si tant est qu'il ait jamais existé. Quand on se promène dans la France des mosquées, comme j'ai essayé de le faire, on se rend compte qu'il y a très peu de mosquées dans les caves. Moi, personnellement, j'en ai vu trois. Une à Strasbourg, une récemment à Aulnay-sous-Bois, et celle du Val-Fouré. Bon. Les premières mosquées, elles ont vu le jour d'abord dans les foyers de type Sonacotra, où c'était les espaces communs qui étaient transformés en salles de prière. Et puis, en général, non pas dans les caves des immeubles, mais plutôt dans les rez-de-chaussée, dans les garages à vélo, qui étaient transformés en salles de prière. Et aujourd'hui, on est à une étape supérieure où les associations musulmanes commencent à avoir un petit peu de ressources, de dons des fidèles, et achètent soit des friches industrielles, des anciennes usines, ce qui donne des salles de prière absolument énormes, et évidemment ce qui va compter lors des élections au CRCM, puisque c'est le critère du mètre carré qui est retenu, donc ça va donner un poids à ceux qui auront ces usines reconverties en mosquées, ou alors quelques-uns achètent des pavillons, c'est aussi de plus en plus fréquent, ou alors des locaux commerciaux, dans les centres commerciaux qui n'ont pas fonctionné, dans les cités, qui sont reconvertis en salles de prière. Bon. Donc, on assiste progressivement à l'émergence d'un islam de petits propriétaires, en fait, de petits entrepreneurs du culte musulman qui rachètent leurs petits bâtiments, qui le transforment tranquillement et qui en font une sorte de business avec éventuellement un petit commerce autour. Bon. Le principal défi aujourd'hui, je crois, qui va se poser au maire, c'est que les lieux de culte musulmans sont essentiellement situés soit sur les lieux d'habitation ou dans les quartiers. Bon. Ils sont adaptés à une population de primo-arrivants ou à une population déclassée, de chômeurs, etc. Mais ils ne sont pas adaptés à une classe moyenne musulmane qui irait travailler au centre-ville et qui voudrait, puisque le vendredi n'est pas chômé, aller à la prière entre midi et deux le vendredi. Bon, à Paris, c'est assez simple. Il y a la mosquée de Paris ou la mosquée à Daoua, mais la situation peut se poser dans d'autres grandes villes de France où il y a un manque de mosquées ou de salles de prière dans les centres-villes. C'est évidemment là où les règlements d'urbanisme sont le plus rigoureux. Alors, le paradoxe français, c'est qu'on s'engage dans des projets de type pharaonique, grandes mosquées comme à Strasbourg, à Marseille, ou des projets de type clientéliste comme Georges Frêche à Montpellier. Mais quand les musulmans essaient d'acquérir un terrain ou un immeuble, par exemple en centre-ville, on va essayer de leur mettre tous les bâtons dans les roues pour les empêcher. Or, l'exemple de la rue Malaval à Marseille montre que ça peut marcher. Et ce cas se produit tous les jours. Alors, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que le regard des élus locaux change sur les associations musulmanes. Je vois que les choses évoluent. Alors, vous me direz, là aussi, les considérations électorales entrent en ligne de compte. Mais je relève, par exemple, que la dernière Assemblée générale de l'UEIF s'est tenue au Raincy. Il n'y a pourtant pas beaucoup de musulmans au Raincy, même si c'est dans le 93, et que les responsables de l'UEIF ont été chaleureusement accueillis par Éric Raoult, voilà, qui ne passait pas spécialement pour un grand ami de l'UEIF jusqu'à présent. Donc voilà, il y a des évolutions qui se passent et certainement qui vont continuer à se faire. Alors, en conclusion, il est de plus en plus question aujourd'hui dans les débats sur l'intégration de la fracture coloniale. Il y a une pétition d'indigènes de la République. Alors, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une idée d'extrême-gauche? Ou est-ce que c'est une réalité? En tout cas, il y a un mot qui a fait son apparition dans le vocabulaire des jeunes musulmans, qui est celui de blédard ou de blédiste, comme un terme assez péjoratif pour désigner soit les primo-arrivants, les premières générations, les vieux qu'on appelle parfois les chibanis, ou alors ces étudiants étrangers qui sont arrivés dans les années 70 ou 80, qui ont fait souche, qui se sont installés et qui sont aujourd'hui les cadres des principales organisations islamiques en France. Bon, je pense que cette situation est relativement logique dans la mesure où actuellement 80% des lieux de culte sont gérés par des primo-arrivants et ne sont pas gérés par la deuxième génération. Néanmoins, je crois qu'un vrai défi qui va se poser à la fois au niveau régional et au niveau national, ça va être d'ouvrir le CFCM et les CRCM à cette mythique deuxième génération à qui on promet beaucoup et qu'on n'intègre pas beaucoup. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la composition du CFCM n'est pas très encourageante. Donc je crois qu'il va y avoir un gros effort à faire de ce point de vue-là. Sinon, on voit revenir dans le discours sur la gestion de l'islam par les pouvoirs publics un certain nombre de termes appartenant au passé, comme ça qu'on dira que le bureau des cultes se comporte comme un bureau arabe, on dira que la mosquée de Paris est composée des nouveaux supplétifs, on parlera des bachagas, des béni-oui-oui, etc., etc. Donc je crois que le défi qui va se poser dans les prochaines années, ça va être d'intégrer cette deuxième génération et d'ouvrir l'éventail pour que, véritablement, on passe d'un islam de France à un islam français. Merci.
Eh bien, je vous remercie, monsieur, pour votre exposé. Et vous avez bien fait d'utiliser beaucoup d'exemples, ce qui a permis de faire passer encore davantage. Mais chacune et chacun des intervenants cet après-midi ont donné à la fois la théorie et la pratique, et je voudrais vous remercier tous les trois de votre présence et des excellentes communications que vous avez présentées. Je dois respecter l'horaire, une autre félicitation à partager entre tous les trois, puisque vous avez parfaitement tenu dans l'horaire qui était prévu par les organisateurs. Et maintenant, je dois vous convier à un quart d'heure de pause, c'est bien ça, monsieur le bâtonnier? Et nous reprendrons par conséquent nos travaux à 16h30. Et si ensuite il y a des questions à poser, elles sont prévues en fin d'après-midi vers 17h30. Voilà. J'applique rigoureusement l'organisation que je viens de vous indiquer. Voilà, ben c'était très bien, tous les trois. Vous pouvez rester encore un peu, madame? Bon, parce que... Voilà, monsieur le député-maire, vous avez l'habitude de réunions un peu plus nombreuses à Évry. Pas forcément, non, vous avez raison, ça arrive. C'est arrivé aussi, je n'avais pas l'honneur d'être chez vous, mais au Sénat. Et nous avions des réunions, effectivement, par moments très importantes et d'autres moins. Mais à Évry, dont vous allez nous parler, je pense. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être revenus, de ne pas avoir succombé aux délices de la pause et des boissons qui vous étaient offertes. Alors, nous continuons sur le thème de laïcité et séparation sur le terrain. Alors, dans cette seconde partie d'après-midi, monsieur le député maire d'Évry va nous parler, puis nous aurons un débat, car plusieurs personnes m'avaient demandé tout à l'heure la possibilité de poser des questions aux communicants de la première partie d'après-midi, qui, je crois, sont restés. Et après, l'après-midi se terminera avec Monsieur le Président de l'Association des maires de France. Alors, monsieur le député maire, chacun sait ici que vous faites partie de nouvelle génération des responsables du Parti socialiste et que, si vous êtes ici, c'est à plusieurs titres, en particulier, parce que vous avez publié un livre rendant compte de votre expérience de maire, intitulé « La laïcité en face », paru chez Desclée de Brouwer cette année. Dans ce livre, vous abordez la question des rapports entre les pouvoirs publics et les religions, et vous posez la question de l'adaptation de la loi de 1905 à la société actuelle. On se la pose de telle ou telle façon, et il est certain que nous devons y réfléchir. Vous le savez, permettez-moi de le répéter, nous avons été chargés par le gouvernement précédent d'assurer la commémoration de la loi de 1905. Nous essayons, avec mes confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, de faire au mieux, sous la houlette de M. le bâtonnier André Damien, qui, pendant quelque temps, a siégé à l'Assemblée nationale. Nous savons que Évry est une ville pluriethnique, multiculturelle, qu'elle est importante. Pour quelqu'un comme moi de l'Allier, 50 000 habitants, c'est une grande ville. Paris, évidemment, c'est un petit peu moins. Et que vous possédez sur votre territoire, c'est un cas, je crois, à peu près unique, la seule cathédrale catholique construite en France depuis 1905, précisément, une synagogue, une grande mosquée et bientôt une pagode de 3000 m² en voie d'achèvement. Je vous remercie donc au nom des organisateurs et au nom de mes confrères d'Académie pour avoir bien voulu accepter de nous parler cet après-midi. Et si vous le voulez bien, je vous donne la parole.
Merci beaucoup, M. Cluzel. C'est un plaisir. C'est ce qui compte, c'est la qualité de l'auditoire. C'est pas le nombre. Et puis, le sujet, puisque le centenaire de la loi 1905, ou de la laïcité, même si c'est un terme impropre, en tout cas de la loi 1905, une des célébrations dont la France est férue, ne doit pas donner lieu, évidemment, à l'autosatisfaction, qui serait hors de propos sur une valeur, évidemment, très, très française, dont nous pouvons être, je n'en doute pas, fiers quant à son esprit, mais dont nous devons peut-être regretter les difficultés d'application. En tout cas, moi, je crois que ce centenaire, et ces jours de débat sont très importants, ce centenaire doit être utile pour adapter l'application du principe de laïcité à la réalité de la France moderne, en tout cas à celle que je vis comme maire d'Evry. Revenons à 1905, le cadre dans lequel la loi a été bâtie est évidemment très différent de ce qu'est devenue la France, ça a dû être dit au cours de ces deux jours. Les religions dont la présence fut antérieure à 1905 n'ont aucun problème, pas de problème, je vais évidemment très vite, à évoluer dans ce cadre. La société d'avant 1905 était structurée autour du fait religieux. Elles ont donc pu se doter d'édifices sur l'ensemble du territoire au long des siècles et d'un patrimoine conséquent. C'est le cas évidemment pour l'Église catholique. L'enjeu de la loi était de garantir le succès du processus de sécularisation de la société française. Et je veux que nous gardions cet élément en tête, car je le pense, il est essentiel pour comprendre pourquoi nous avons besoin de faire évoluer ce cadre. En tout cas, à partir, là encore, de l'expérience de maire. Les religions dont l'installation est postérieure ou fut postérieure à 1905, et notamment l'islam, mais aussi, par exemple, le bouddhisme ou l'hindouisme, certaines églises protestantes aussi, n'ont pas bénéficié de ce cadre politique, législatif, culturel. Les pratiquants de ces religions, qui sont principalement, pas seulement, mais nos concitoyens issus des différentes vagues d'immigration extra-européenne, ont donc de grandes difficultés à pratiquer leur religion. En tout cas, disposer d'un cadre décent pour exercer leur foi. À travers les exemples que j'ai entendus, on peut le constater. Dans le livre auquel vous avez eu la gentillesse de faire allusion, La laïcité en face, j'ai voulu insister sur ces difficultés, traiter d'autres sujets, mais en tout cas pour ce qui concerne les religions. Et c'est ce qui m'amène, je vais évidemment parler d'Evry, à défendre la révision ou la modification ou l'adaptation, les mots leur importance dans ce pays, de la loi 1905. Parce qu'il y a dans notre pays des discriminations religieuses tout aussi insupportables, en tout cas identiques, pour celles et ceux qui sont victimes ou qui en sont victimes que celles liées à l'emploi, au logement ou à la formation, c'est évidemment d'actualité. Bon, et donc c'est comme ça que j'ai placé ma réflexion. Évry est effectivement une ville multiculturelle, multiculturelle, pluriethnique. C'est d'abord une ville nouvelle. Et donc qui, accueillant d'abord, c'était la volonté du général de Gaulle et de Paul de Louvrier, les populations quittant Paris ou venant des autres régions, a accueilli progressivement, parce que la ville nouvelle se construisait dans les années 70, des populations issues de l'immigration. D'abord les Chiliens, qui fuyaient le régime du général Pinochet, mais ensuite, évidemment, les autres immigrations, celles qui venaient travailler, par exemple, à la SNECMA, et progressivement, les immigrations essentiellement liées à l'Afrique subsaharienne. Et avec un certain courage, d'ailleurs, les pouvoirs publics de l'époque, les élus, pour des raisons d'ailleurs très différentes, ont considéré qu'il était important que la ville se dote d'un certain nombre d'équipements, d'un certain nombre d'édifices religieux. Ce fut le cas, évidemment, avec la cathédrale superbe construite par Mario Botta, que, en plein cœur de ville, c'était une manière d'achever le centre-ville, la rencontre aussi entre un élu, mon prédécesseur, Jacques Guyard, et Mgr Herbulot, qui voulait créer un diocèse et qui voulait qu'il y ait cette cathédrale au cœur de la ville nouvelle, avec ses nouvelles populations qui venaient. Une mosquée, évidemment, construite sur à la limite d'Évry, sur la ville de Courcouronnes, mais que tout le monde appelle la mosquée d'Évry et Courcouronnes, une des plus grandes que compte notre pays. Une synagogue qui existait déjà, créée au début, au milieu des années 70, à la fin des années 70, avec l'arrivée, l'installation à Ris-Orangis et ensuite à Évry, communauté juive issue pour l'essentiel d'Afrique du Nord. Et puis, un certain nombre d'églises protestantes ou évangéliques liées aussi beaucoup aux Antillais ou à l'immigration africaine. Et puis enfin, il y a 10 ans, avec la pose de la première pierre, d'une pagode qui, avec la patience des bouddhistes, se construit lentement, mais sûrement, qui va être sans doute la plus grande d'Europe, et qu'il y ait une communauté vietnamienne qui, jusqu'à maintenant, est installée à Bagneux. Bref, sur l'espace public, il y a ces édifices religieux. C'est-à-dire que nous n'avons pas le problème de savoir s'il faut des édifices religieux, s'il y a un islam des caves ou des garages, mais cela existe dans une de ces villes nouvelles, ce qui est d'ailleurs une forme de paradoxe, parce qu'au fond, on aurait pu penser qu'une ville nouvelle, donc parfaite, tirant les leçons des échecs d'urbanisme des années 50 et 60, devait être différente des villes anciennes. Et au fond, non. On retrouve côte à côte, et pas face à face, la mairie et la cathédrale sur le même espace public, des édifices religieux qui ne sont pas relégués aux abords, dans des quartiers périphériques, mais qui sont pour la plupart au cœur de ville, parce qu'il n'y a pas un centre ancien, riche, avec des quartiers en difficulté périphériques, comme dans beaucoup de villes. C'est la force et la faiblesse en même temps d'Évry, c'est que tous leurs quartiers ont leur propre mixité, que le centre-ville n'est pas encore achevé. Et donc, la définition même de la laïcité, c'est-à-dire vivre ensemble, ou celle d'un espace public, se trouve confortée avec l'installation de ces différents édifices, de ces lieux de culte. Et je dois reconnaître que, pour ce qui me concerne, maire depuis 2001, je porte, avec fierté d'ailleurs, cet héritage. Je le conforte, je vais y revenir, je le soutiens, il me préoccupe parfois. Je n'ai pas à me poser les questions que peuvent se poser un certain nombre d'édiles, comme le rappelait le journaliste du Monde il y a un instant à l'occasion de la dernière conférence. Mais, comme élu, puisqu'il s'agit de parler du terrain, évidemment, je suis confronté à toutes les évolutions récentes, à toutes les problématiques auxquelles vous avez fait allusion au cours de ces heures et de ces journées de discussion. Cela a été évoqué. D'abord, la question du cimetière, du carré. Il n'existait pas de carré musulman ni carré israélite par ailleurs. Ville nouvelle, petit village d'abord, petit cimetière d'un village, cela n'existait pas. Et donc, j'ai fait le choix d'installer en janvier 2001, côte à côte, une belle cérémonie symbolique, les carrés israélites et musulmans, répondant ainsi à la fois une demande ancienne, permettant également de régler de manière très pratique, ce n'est pas toujours vrai, mais la problématique de l'enterrement pour les musulmans, car sinon ils sont obligés, vous l'avez sans doute évoqué, soit de trouver un autre cimetière, soit tout simplement, ce qui coûte extrêmement cher, ce qui n'est jamais facile, de renvoyer ou d'envoyer le corps au pays avec toutes les problématiques que cela peut poser. Mais bon, là encore, la loi ne le prévoit pas, la jurisprudence est passée par là, ça dépend quand même beaucoup de la volonté des maires. Ce n'est pas sans doute le problème le plus compliqué aujourd'hui à traiter, mais reconnaissons que nous avons une certaine vision neutre de ce que sont nos cimetières. Progressivement, grâce à l'action des maires ou la jurisprudence, les carrés confessionnels s'installent. Certains sont d'ailleurs très anciens, je pense évidemment aux carrés israélites. Mais là encore, ça fait partie, je suis là pour provoquer un peu de débat, d'une forme d'hypocrisie française qui affirme un certain nombre de principes, qui s'inspire des valeurs, qui les clame fortement à la tribune de toutes les assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais qui en même temps, au fond, laisse les élus se débrouillent. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de laisser à chaque fois le niveau local ou régional, comme l'évoquait Xavier Ternissin tout à l'heure. Non, moi je crois qu'il serait quand même bon que la pratique locale et la vision nationale puissent, un moment ou l'autre, se rejoindre, car cette distorsion entre les principes et les déclamations et la réalité du terrain, livrée au bon vouloir des élus, en fonction éventuellement de leurs considérations politiques. D'ailleurs, c'est rare que les élus n'aient pas quelques considérations électorales. Ils peuvent par ailleurs aussi avoir une certaine vision de l'intérêt général. Ça nous arrive aussi. On peut essayer de concilier les deux, mais livrer ces problématiques-là aux seuls élus ne me paraît pas, évidemment, une bonne chose. Deuxièmement, moi j'ai été frappé par cela, c'est cette distorsion que j'évoquais entre les religions apparue avant 1905 et celle d'après. Et là, Évry est le cœur même de la contradiction, sur laquelle je bâtis ma réflexion, avec mes contradictions, avec des éléments qui font débat et qui m'amènent à demander une révision de la loi 1905. La cathédrale d'Évry a été bâtie, d'abord avec les dons des fidèles, avec le soutien évidemment de l'Église catholique, elle a coûté à peu près entre 70 ou 80 millions de francs, mais il y avait un musée d'art sacré, il y avait un projet de musée d'art sacré, enfin, plutôt. Il manquait de l'argent. Et donc il y avait la belle idée d'un musée d'art sacré. Le maire de l'époque, Monseigneur Bulot, cardinal Lustiger, essentiellement, ont décidé d'aller voir un certain nombre d'acteurs publics pour les aider. Jack Lang, ministre de la Culture, la région Île-de-France, à l'époque cela devait être Michel Giraud qui en était le président, et puis les élus locaux. Et donc ces trois entités ont réussi à débloquer 13 millions de francs, 5 millions pour l'État, directement, pour soutenir la construction du musée d'art sacré, 5 millions de francs de la part du Conseil régional d'Île-de-France, et 3 millions par l'établissement public de la ville d'Évry, mais qui construisait la ville nouvelle, mais qui à l'époque déjà, ses ressources étaient essentiellement locales. C'était les contribuables des quatre villes qui composaient la ville nouvelle d'Évry. Donc sur les 70 à 80 millions de francs, 13 millions de francs, ce qui n'est pas rien, viennent des pouvoirs publics. Pour un musée d'art sacré qui, jusqu'à maintenant, a organisé peu d'expositions, ça commence petit peu, mais enfin, le musée de la Sacrée est totalement intégré à la cathédrale. Il devrait être un musée, une salle d'exposition, et demain, grâce à une donation, le trésor de la cathédrale. Bon, quand les bouddhistes, pour ne pas parler de l'islam, sont venus me voir en disant, voilà, nous aussi, on a un projet de musée attenant au lieu de culte et au monastère, puisqu'on va y former des moines et des nonnes, que nous n'avons pas de moyens, parce que notre communauté n'est pas très riche, qu'il est hors de question de demander de l'argent au Vietnam, pour des raisons évidentes, et que nous avons beaucoup de choses à mettre dans ce musée-là sacré, monsieur le maire, pouvez-vous nous aider à obtenir les mêmes moyens de la part de l'État, de la région ou des autres collectivités? Donc j'ai pris bâton de pèlerin, je suis allé voir le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, j'ai relancé le nouveau ministre ensuite, je n'ai pas eu de réponse, malgré un certain nombre de rendez-vous. Donc on voit bien là qu'il y a aussi une différence de traitement, qui est une différence uniquement d'opportunité. Mais prenons un autre exemple pour continuer le débat. Quand il faut restaurer une église, j'en ai deux dans ma circonscription qui ont fait cette demande, l'église Saint-Marcel de Villabé, petite ville de 5000 habitants, il faut la restaurer, bien, dans le cadre d'un contrat régional qui permet le financement d'un certain nombre d'équipements culturels ou d'édifices religieux, ça rentre dans le patrimoine une petite place traditionnelle d'un beau village français. La région finance la rénovation de l'église. Dans le vieux village d'Évry, il y a l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, évidemment construite avant 1905, qui appartient à la commune. Quand l'orgue tombe en panne, il faut une orgue dans une église, quand l'orgue tombe en panne, on s'adresse au maire. Elle est de propriété communale. Bon, donc ça veut... et je ne peux pas refuser. D'ailleurs, pourquoi je refuserais? Ça fait partie du patrimoine culturel. La mosquée ou la synagogue, construite évidemment après 1905, qui sont concernées par les mêmes problèmes de fonctionnement, donc plus d'investissement pour construire, de fonctionnement, me font un certain nombre de demandes, ou à la ville voisine. Je ne peux pas évidemment y répondre, sinon j'aurais contre moi, j'imagine, des gens qui saisiraient le tribunal administratif ou le Conseil d'État. Bref. Dans l'autre paysage religieux, notre paysage cultuel, il y a évidemment un certain nombre de contradictions. Et ce système, mesdames, messieurs, laisse au fond la part belle à l'arbitraire de l'État et des collectivités locales. Le traitement n'est pas le même. Et la défense de la séparation de l'Église et de l'État est très souvent le prétexte bienvenu pour empêcher les croyants des nouvelles confessions françaises, de bénéficier d'un lieu pour leur foi. Et souvent donc, le financement culturel est hypocritement, ça a été dit, chacun se débrouille, est appelé financement culturel. La ville voisine, celle de Corbeil-Essonne, avec un quartier de 14 000 habitants qui ne va pas très bien, celui des Tarterets, une population issue de l'immigration, de confession musulmane, le maire de cette ville est Serge Dassault, décide de construire un institut musulman, culturel. Construit comment? Grâce aux dons, peu d'argent qui vient sans doute de l'étranger, et puis le maire, qui n'est pas sur la paille, bah, décide lui-même de faire un don personnel. On ne peut pas lui reprocher. Enfin, là aussi, c'est soumis à l'arbitraire. Je ne pense pas que tous les maires puissent, sur leur fortune ou sur leur propre fonds, donner plusieurs centaines de milliers d'euros pour aider à la construction d'un lieu de culte. Quel est le lien alors entre cette mosquée, cet institut, ces pratiquants, ceux qui l'animent et le maire? Quel est le lien de dépendance alors qui s'organise? Où est la séparation entre l'État et les religions? Les cultes, en tout cas, ça doit aller dans les deux sens. Certains amis, dont je ne nie pas la volonté, me disent donc, tu vois, grâce à ces différentes constructions, grâce à différents artifices, ces différents moyens, la loi peut être contournée, nous pouvons financer sans toucher la loi. Oui, c'est vrai, mais on finance là en la contournant, ce qui n'est pas très satisfaisant, je viens de le dire. Et au fond, moi je continue à penser, jeune parlementaire, que la loi devrait servir à exprimer la volonté collective. Et puis, il y a quelque chose d'autre, moi, qui me gêne et qui m'amène à proposer une rénovation, modification de la loi 1905, c'est qu'on ne peut pas à la fois affirmer des principes qui empêchent des financements publics pour la construction des lieux de culte et accepter en même temps, ou alors je ne le comprends pas, que de plus en plus les financements qui viennent de l'étranger permettent la construction de lieux de culte. Beaucoup de nos mosquées ont été construites, ce fut le cas de celle d'Évry-Courcouronnes, à travers les fonds venant de la Ligue islamique mondiale, avec ensuite un apport du royaume du Maroc. Comment pouvons-nous accepter que l'islam de France, et je fais mienne moi cette expression, comment pouvons-nous accepter que cet islam de France continue à être financé, voire géré, même si c'est plus compliqué que cela, directement par un certain nombre de pays dont l'attachement à nos valeurs, à la démocratie tout simplement, aux droits de l'homme et de la femme, ne sont pas forcément au cœur de leur projet et de leur politique. Et donc c'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut trouver des moyens. Certains me disent qu'il n'y a pas besoin de passer par modification de la loi 1905 parce que ça ouvre la boîte de Pandore. Je comprends tout à fait ce débat. Il faut utiliser la fondation qui a été créée par le Premier ministre actuel, faire appel peut-être à la caisse des dépôts qu'on utilise déjà sur beaucoup de choses, mais pourquoi pas, et ce qui permettrait de mieux contrôler l'argent, d'avoir des flux financiers transparents, parce que moi, tout bêtement, je pense qu'à un moment ou l'autre, celui qui paye commande. Et que notamment les financements d'Arabie Saoudite ont progressivement ou sont en train de changer progressivement, mais je m'éloigne de la dévrie, encore que, vous verrez pas trop, la face de l'islam dans le monde. Ça a été vrai en Indonésie, et c'est de plus en plus vrai en Afrique, où je suis moi très inquiet de ce qui se passe dans un certain nombre de pays du Sahel, où un islam très modéré, lié évidemment aux confréries, à la tradition africaine, est en train d'être profondément modifié. C'est un peu le cas au Mali, ça pourrait être vrai au Sénégal, c'est vrai au Niger, ne parlons pas du Nigeria, et ce mouvement n'est pas sans conséquence, y compris chez nous, sur notre propre immigration, ou sur les futurs primo-arrivants, si vous me permettez cette expression, qui proviennent de ce pays. Et donc c'est tout le rapport avec l'islam qui est en train de modifier. Et comme je crois que la France peut être, et je le vois à travers Évry, une formidable terre, d'ailleurs c'est lié à nos valeurs universelles, soyons cette fois-ci au moins un peu arrogants sur ce problème-là, peut être la terre dans laquelle on fait la démonstration, pas évidente aux yeux de beaucoup, mais moi je le pense, où l'islam est compatible avec la démocratie, la république, la laïcité, les droits de l'homme, la femme, et dont notamment tous ces intellectuels, tous ces jeunes qui croient en nos valeurs et qui voudraient que l'islam puisse s'épanouir en France. Mais la condition, c'est qu'il faut clarifier l'organisation de l'islam. J'entendais parler à juste titre du conseil du culte national ou régional. En tout cas, pour ce qui concerne l'Île-de-France, je sais que c'est différent dans les autres régions. Sur cette partie sud-est de l'Île-de-France, le conseil régional du culte n'est pas interlocuteur. J'ai essayé qu'il soit un interlocuteur. Nous avons organisé le vote en mairie d'Évry, ou dans une mairie annexe de ma ville, pour marquer un travail commun. Il y a de la bonne volonté, mais ceux qui commandent, ce sont évidemment les animateurs, les dirigeants des principales mosquées. Quand j'ai essayé, pour être toujours dans le concret, j'étais une des rares villes à vouloir régler le problème de l'abattage rituel au moment de l'Aïd. Nous avons trouvé un entrepreneur qui a inventé un abattage mobile. Nous avons installé, ce qui n'est jamais facile, hein, parce que ça charrie évidemment beaucoup de questions, beaucoup de fantasmes. Hein. Sur les bords de Seine, nous avons installé cette petite entreprise. Nous avons essayé d'organiser, il y a 2 ans, la presse en a beaucoup parlé, pour tout simplement les musulmans puissent, au fond, garder une forme de tradition, même si les choses évoluent. Ça a été une demi-réussite ou un demi-échec. En tout cas, ça n'a pas été renouvelé, parce que de toute façon, chaque année, nous nous trouvons confrontés avec les dirigeants des associations musulmanes aux mêmes problématiques d'hygiène et à la même attitude de l'État, qui dit vouloir régler le problème. Mais enfin, les normes européennes et les normes françaises, l'absence d'abattoirs, notamment en Île-de-France, font que c'est extrêmement difficile d'avancer. Mais au fond, je n'ai absolument pas été aidé par les dirigeants des différentes mosquées, car là aussi, garder le contrôle sur cette problématique-là, bah, c'est garder le pouvoir et c'est aussi garder l'argent. Donc, c'est des choses longues à mettre en œuvre, difficiles, mais là aussi, elles nécessitent une plus grande clarification. Enfin, là aussi, pour toucher à différents sujets, puisque l'idée, c'est que je reste sur l'expérience qui est la mienne, même si j'en tire évidemment des analyses plus générales, c'est que la question de la laïcité elle n'est pas uniquement, évidemment, sur le terrain religieux. Elle est sur le terrain de ce processus de ségrégation territoriale, sociale et ethnique qui est en marche depuis 30 ans dans notre pays, qui concerne un certain nombre de quartiers. La pauvreté, liée souvent à l'immigration, le chômage, la violence sociale, la violence infrafamiliale, sont des éléments de cette ghettoisation. Le grand journal espagnol, El País, a fait 2 articles retentissants ces 2 derniers jours parlant de l'apartheid français. Le regard, même pas des médias anglo-saxons, qui évidemment règlent quelques comptes avec notre pays, mais on voit bien que là, il y a un regard très dur qui est porté sur notre société. Mais l'un des éléments de cet apartheid, qui n'est pas la cause, qui est sans doute la conséquence, mais c'est celle du commerce. Or, quand vous avez un quartier où le commerce n'est plus que halal, quand le commerce est le dernier élément qui ferme le ghetto sur lui-même, dans des villes de la taille, comme Évry, qui est à la fois une grande ville pour la région Île-de-France, pour le département de l'Essonne, qui aucune ville ne dépasse à part Paris 100 000 habitants, mais qui est une petite ville. Et quand un quartier de 10 000 habitants sur 50 000 habitants se referme totalement dans ce processus de ghettoisation sociale, ethnique, commerciale, comment voulez-vous que ça marche? Les couches moyennes, ceux qui ne sont pas musulmans, partent de ce quartier. Et je me suis rendu très célèbre sur la planète entière, il y a 2 ans, en disant non à un Franprix qui allait devenir halal, parce que je ne pouvais pas considérer que cette marque plus générale n'allait pas concerner les autres habitants de ce quartier, d'autant plus que les gérants de ce Franprix m'ont expliqué que le quartier n'était composé que de maghrébins et de musulmans, ce qui n'est pas vrai. On m'a tout de suite parlé d'un Franprix cachère qui était boulevard Voltaire, je crois. Mais d'abord, je crois que la comparaison ne résistait pas à la question ou à la question culturelle et religieuse. Je trouve que hier, j'étais à Barcelone pour un colloque sur ces questions-là, parce que les problématiques se posent notamment en Espagne. Et ils sont en train de prendre un certain nombre de dispositions dans des mairies dirigées notamment par des gens de gauche et des socialistes, donc forcément des gens très bien, ils sont en train de prendre des dispositions législatives. Parce qu'en France, le commerce est roi, et le tribunal administratif et le Conseil d'État ont évidemment cassé toutes mes décisions concernant la fermeture de ce Franprix halal, qui ne s'appelle plus Franprix, parce que Franprix a décidé de retirer la marque suite à différentes interventions que j'ai faites. Le seul moyen que j'ai d'intervenir, c'est à travers les questions d'hygiène. Et il se trouve qu'elles sont également très lourdes. Mais enfin, c'est un drôle de détour pour régler un problème qui est un problème compliqué, parce que commerce, liberté sont évidemment au cœur d'une société qui est libérale au sens plein du mot politique et économique. Mais on ne nous donne pas les moyens d'agir à travers des politiques de peuplement, mais aussi d'implantation commerciale, pour sortir de la logique du ghetto. Et donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de combiner, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, à la fois une forme d'échec, je vais évidemment trop vite, sur ce qu'est notre dispositif, ou notre système, ou notre pacte républicain d'intégration, d'assimilation, peu importe les mots, cet échec-là, avec un modèle communautariste, qui est celui qu'on rencontre en Grande-Bretagne notamment, mais qui a au moins l'avantage de marcher un peu. Parce que de ce ghetto anglais, on sort, on fabrique des élites. À la Chambre des communes, à la BBC, parmi les intellectuels, parmi les chefs d'entreprise. C'est un débat d'actualité, ça n'est pas le cas chez nous, ou très peu, ou vraiment à petite dose. Bon, donc, on voit bien que là aussi, le concept de laïcité, pour un élu, pour un maire, n'est pas uniquement lié à la question religieuse. Elle est proprement au cœur de ce qu'est la notion de vivre ensemble et de ce que doit être, en tout cas, une vision moderne, rénovée de la République. Ce qui nous oblige à passer par des dispositifs nouveaux, qui évidemment choquent l'idée qu'on peut se faire de la République, ce serait beaucoup trop long, des dispositifs de discrimination positive à la française, c'est-à-dire sur des bases territoriales et sociales, le mot est très laid, donc on va l'appeler action positive ou volontarisme républicain, mais aussi par cette modification de la loi 1905, parce qu'elle nous donnera des moyens de créer les conditions d'un islam de France. Pourquoi je dis ça, et je termine pour respecter le temps qui m'a été imparti? Parce que nous sommes dans une course contre la montre. Moi, j'en suis convaincu, en tout cas dans ces quartiers. C'est soit un modèle renouvelé républicain qui, évidemment, n'a rien à voir avec la Troisième République, encore que. J'ai vu, un peu en avant-première, le très beau film La Séparation, qui passe dans quelques jours sur les chaînes publiques. Il se trouve que Jean-Claude Drouot, qui joue Jean Jaurès, habite Évry. Et c'est une loi, et nous avons tous regardé de très près, qui est une loi de compromis. Donc gardons cet esprit de compromis, hein, de ceux qui ont voulu à l'époque, dans des conditions évidemment historiques et politiques très différentes. Donc je crois à un modèle républicain rénové. Soit alors, dans ces quartiers, l'offre, elle sera politico-religieuse. Ça sera soit des organisations très intégristes ou très traditionnelles, mais qui concernent peut-être plutôt les anciennes générations. Soit alors des gens beaucoup plus intelligents, dans la jeunesse, et notamment en marge ou avec, en lien avec l'UEIF, que je considère pour être des adversaires de la République. Et je pense notamment à M. Tariq Ramadan, qui tient un discours à double facette ou à triple facette, selon les interlocuteurs qu'il a, et auquel un grand journal du soir donne des pages entières. Des pages entières. Et auquel, d'ailleurs, le gouvernement anglais vient de faire appel pour modérer les musulmans britanniques, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans les sociétés occidentales. Donc il y a une interrogation sur le modèle identitaire. Je vais la semaine prochaine à Amsterdam pour discuter de ces choses-là, notamment avec le maire d'Amsterdam, que la société britannique, hollandaise, pardon, est en questionnement profond sur ce qu'est le multiculturalisme, qui est un mot sur lequel on doit aussi s'interroger. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ma ville soit multiculturelle. Hein. Mais c'est quoi le modèle que nous voulons ? Quelle est l'offre politique ? Et donc, je crois que nous sommes dans une course contre la montre qui nécessite à la fois l'affirmation de nos principes, une évolution des outils que nous avons, à partir de la réalité du terrain, afin de reconcilier laïcité et république, et notamment d'offrir une perspective à aujourd'hui une partie de la population qui est dans les quartiers populaires, et pas uniquement dans les banlieues, mais dans les quartiers populaires, souffre, est en grande difficulté, à la fois économique et sociale, mais dans une crise d'identité profonde. Ce qui explique que notre pays est aujourd'hui, comme dirait le président de la République, dans une crise d'identité, de sens et de repères. Et je fais bien ces mots, parce qu'ils sont justes. Et donc ça veut dire que la réponse d'un modèle républicain laïque doit être adaptée, modernisée, pour conserver ces valeurs démocratiques qui sont essentielles et qui nous obligent à re-questionner la manière dont les gens vivent. J'aurais pu parler, évidemment, par exemple, de la problématique des femmes, des jeunes filles dans nos cités qui sont en proie à la violence sociale, à une régression religieuse, à une régression des mœurs aussi, et qui souffrent en silence, même s'il y a des événements qui malheureusement mettent ces questions sur le devant de l'actualité, mais pour très vite disparaître, parce qu'il y a une forme de mauvaise conscience sur tous ces problèmes-là dans notre pays. Et moi, j'ai très souvent le sentiment, dans ce qu'on appelle improprement la classe politique française, que les événements que nous venons de connaître gênent, et qu'au fond, tout le monde espère que l'actualité viendra très vite recouvrir tout cela pour qu'on passe un bon vieux débat droite-gauche qui arrange tout le monde en attendant la prochaine explosion politique et sociale. Voilà, à partir de ces réalités, en allant vite, en vous donnant peut-être quelques perches pour provoquer le débat, ce qu'est aussi la réalité d'une ville d'Evry, la plus jeune de France, en moyenne d'âge, 26 ans, 8% de retraités seulement, population dont sans doute la moitié est issue de l'immigration, mais qui est confrontée aux grandes problématiques de la France d'aujourd'hui et de demain. Et j'ai la faiblesse de penser que les réponses que nous cherchons dans une ville comme la mienne sont peut-être des réponses, j'espère en tout cas, qui pourront servir à d'autres dans notre beau pays. Merci.
Ah oui, allez-y, oui. Monsieur le maire, merci pour cette magnifique intervention. Vous nous avez dit que vous aviez engagé une course contre la montre. Vous savez, vous avez dit aussi que vous étiez la ville la plus jeune de France, nous en sommes heureux. Nous, à l'Académie des sciences morales et politiques, nous avons des proportions tout à fait inverses des vôtres. Inverses des vôtres. Mais heureusement, nous avons conservé, mes confrères et moi-même, une ouverture d'esprit qui nous permet d'apprécier ce que vous venez de dire et ce qu'ont dit les trois intervenants vous précédents. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre intervention, c'est le panorama que vous avez brossé et votre lucidité. Et puis votre ouverture en France et à Évry, en commençant par Évry, certes, et puis ensuite en France, votre ouverture à l'ensemble des problèmes, et pas seulement religieux, il y a tous ceux que vous avez évoqués, et puis votre ouverture à ce qui secoue le monde. Et si je me permets de vous dire mon complet accord, je ne me permettrai pas de vous féliciter, certes, mais mon complet accord avec ce que vous venez de dire, c'est que ce n'est pas une qualité proprement française depuis des siècles. Nous avons toujours, nous, Français, tenu à rester entre nous, à ne pas trop nous ouvrir aux autres. Ça nous a coûté très cher au cours des siècles. 13 siècles en bataille, 13 siècles très cher en mort, très cher en difficultés de toutes sortes. Et donc, c'est un bonheur pour les gens de ma génération d'écouter quelqu'un de la vôtre avoir cette ouverture d'esprit qui est certes républicaine, mais qui est aussi humaniste. Je vous en remercie de tout cœur. Et puis maintenant, donc, puisque Monsieur le maire d'Evry veut bien l'accepter, on va ouvrir le débat pendant quelques instants. Et puis, saluons la présence de Monsieur le maire qui va... Monsieur le Président, pardon, qui vient vouloir monter à la tribune. Comme ça, nous serons tous les trois réunis. Donc, pendant une dizaine de minutes, si vous le voulez bien, et je vous remercie d'avoir, Monsieur le Président, accepté de raccourcir vos engagements pour être avec nous un petit peu plus tôt que ce n'était prévu. Je remercie de tout cœur. Donc, pendant une dizaine de minutes, si vous voulez, je vais vous donner la parole pour un débat, soit avec Monsieur le maire d'Evry, soit avec Madame la Présidente de la Cour d'appel. Je pense que les deux autres intervenants... Alors... Ah, oui, Monsieur est ici. Donc, il ne nous manque que notre collègue journaliste. Alors, vous avez la parole, monsieur. Le micro. Ah, mademoiselle, voilà. Alors, vous adressez à quel intervenant ?
Je m'adresse à monsieur le député maire.
Pardon ?
Je m'adresse à monsieur le député maire.
À moi.
À vous, d'accord.
Bonjour, monsieur le député maire. Je veux savoir ce que vous pensez, en tant que maire, qu'est-ce que vous pensez du statut concordataire d'une ville comme Strasbourg, qui permet un certain cofinancement des lieux de culte ? Merci.
Bon, cette question ne s'adresse pas qu'à moi. Elle s'adresse aussi à Didier Lesky, au moins. Sinon... à d'autres. Mais, écoutez, ça fait partie de notre patrimoine historique. Ce statut concordataire qui concerne une petite partie de la France qui a échappé à la grandeur de la Troisième République entre, en tout cas, 1870 et 1918. Mais c'est un bout de France, moi, que je regarde toujours avec beaucoup de tendresse. Il se trouve que je suis catalan d'origine, je suis né à Barcelone, je suis fils d'Espagnol, je dois être un des rares députés naturalisé. Je crois qu'il y a votre successeur, Étienne Pinte, qui m'a dit qu'il était naturalisé belge. Hein. Donc nous sommes deux ou trois. Hein. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée nationale représente bien la diversité de la France, incontestablement, et je ne pense pas que moi je puisse être le porte-parole de cette diversité. Mais j'admire en Alsace-Moselle, en tout cas, une autre vision de la République qui n'est pas moins honorable. C'est sans doute la seule région où il y a des grands journaux qui ne sont pas de langue française. Il y a une autre tradition, et c'est pourtant le cœur de l'Europe. Et donc, moi, plutôt que d'en faire un repoussoir ou un adversaire, je pense qu'il faut utiliser, pas parce qu'il y a le concordat, mais il faut utiliser une culture d'ouverture d'esprit pour peut-être asseoir les conditions, par exemple, la création d'un islam de France, avec la problématique très importante, je ne l'ai pas évoquée parce que je ne la vis pas directement, qui est celle de la formation des imams, parce que je crois que c'est une question fondamentale, vous l'avez sans doute évoqué. C'est là où tout se joue. J'étais surpris hier que mes interlocuteurs espagnols en fassent aujourd'hui aussi un élément très important. C'est très dommage d'ailleurs que l'université de la Sorbonne n'ait pas accepté la possibilité qui lui était offerte, ce qui prouve que d'ailleurs, allez, j'en profite en passant, dans la gauche syndicale et dans la gauche politique, il y a des gens qui, par leur rigidité d'un côté, ne font pas évoluer la laïcité dans le bon sens. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que aujourd'hui tous les intégristes du monde sont les meilleurs représentants des damnés de la Terre. Et donc on leur ouvre aussi grand les portes, ce qui explique que des organisations chères à mon cœur, comme la Ligue de l'Enseignement ou la Ligue des Droits de l'Homme, se sont lourdement trompées sur ces problématiques-là, en faisant encore une fois, par exemple, de Tariq Ramadan l'héros de ces nouveaux damnés de la Terre. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, au cœur de la République, en tout cas, à droite comme à gauche, il y a une hésitation sur la voie qu'il faut prendre. En tout cas, moi, je veux en faire plutôt de ce dispositif qui existe à Strasbourg et autour un atout pour conforter les choses et en tout cas, pour qu'il y ait une vision, non pas pour étendre le concordat aux autres régions, mais tout simplement parce qu'il faut sortir d'une forme d'hypocrisie. La loi ne reconnaît aucun culte, certes, mais enfin, les cultes sont dans l'espace public et ce sont des interlocuteurs. Hein. Pas un élu qui, aujourd'hui, ne va pas à toute une série de manifestations. Moi, je m'étonne toujours. Moi, j'ai fait mettre les drapeaux en berne au moment de la mort de Jean-Paul II. Pas dans toute la ville, ceux qui étaient autour de la cathédrale, et donc il y avait la mairie. Alors, il y en a qui disent c'est un scandale dans ma formation politique, cet hommage, ce qui était par ailleurs un chef d'État et un homme qui a compté, me semble-t-il, même si on n'est pas d'accord avec lui sur toute une série de prises de position, mais ce sont les mêmes, parfois, qui vont, au moment des grandes fêtes juives dans les synagogues, qui vont, comme moi d'ailleurs, au moment des grandes fêtes musulmanes à la mosquée, et qui n'iraient pas dans l'Église catholique. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans la manière dont on aborde les questions. Une question d'équilibre, hein, et d'attitude républicaine. Voilà, et je vous ai répondu par une pirouette, ça me permet de...
Merci.
Renvoyer le ballon à un
Merci.
Autre.
Alors, le rabbin Haïm Korsia.
Monsieur le député maire, si vous permettez une remarque et une petite question. Une remarque, vous disiez que parfois on oblige l'élu local à jongler avec les lois l'autorisant ou lui interdisant le financement des cultes et des lieux de culte en particulier. Moi, je trouve que c'est un équilibre assez serein, puisque vous, vous disiez, puisqu'on nous force à jongler, un peu à tricher, il faudrait changer la loi. Le judaïsme n'est pas en France pour changer la loi de 1905, tout simplement parce que, comme le rappelait le professeur Ménard hier, laïcité est une sorte de loi d'équilibre. Loi d'équilibre entre l'obligation de trouver un véritable intérêt public au financement et loi à devoir justifier ce financement. Ce qui implique non pas les élus et les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, à tricher, mais ce qui les oblige à modérer, à pondérer les financements. Et je trouve que si on disait « c'est permis », vous seriez submergé de demandes pour financer, alors parlons pour moi, des rouleaux de la Torah, pour financer des tonnes de choses qui seraient inadmissibles, et vous n'auriez aucun outil pour dire non. Alors, la loi vous permet de vous retrancher derrière le bon sens général qui oblige à vraiment justifier. Je vous donne un exemple, un seul exemple pour le judaïsme. Vous savez que les lieux de culte juifs ont été attaqués à coups de cocktail Molotov il y a 2 ans. Maintenant, ça s'est heureusement calmé. Et c'est maintenant une église qui a été brûlée dans la Drôme. Et je tiens à vous dire que l'association du rabbinat français a envoyé une aide à cette église. Je trouvais naturel qu'on réagisse comme l'église a réagi. Et le ministère de l'Intérieur, et le chef du bureau central des cultes pourra en attester, a débloqué une somme de 3 millions d'euros pour financer non pas le culte dans les synagogues, mais la sécurité des fidèles qui, nonobstant leur statut de fidèles d'une religion, n'en sont pas moins des citoyens. Le bâtonnier d'Amiens aurait aimé cette pirouette juridique. Voilà. Ça, c'était ma remarque. Ma question, si vous permettez, vous êtes passé d'une manière extraordinairement rapide sur, non pas une pirouette, mais vous avez dit intégration ou assimilation, nous n'attendons pas sur le mot. Mais c'est essentiel. Essentiel. Et la question qui est la mienne, qui me permet d'ailleurs de rebondir sur ce que disait le chef du bureau central des cultes tout à l'heure, quand il disait, ça m'a fait bondir et nous en expliquer ensuite, que le fait de permettre la mixité des carrés dans les cimetières permettait une meilleure intégration. Ben, ce n'est pas la vocation de l'État d'encourager à ce que des juifs épousent des musulmans épousent des catholiques, et les catholiques des protestants, ce n'est pas sa vocation. Ce qui était inadmissible dans l'arrêt auquel il fait allusion, c'est-à-dire l'arrêt d'Armont à Grenoble, c'était que l'État, à un moment, était prisonnier d'une décision d'un chef religieux. Il se trouve que c'était le mien, enfin, un rabbin. Donc je parle d'autant plus à l'aise que je disais, c'est inadmissible que l'État soit soumis à la décision d'une région, quelle qu'elle soit. Mais ce n'est pas la vocation de l'État d'encourager la mixité pour obtenir l'assimilation. Donc je vous pose la question, pouvez-vous développer assimilation et intégration, la différence essentielle, étant entendu que le judaïsme est pour une intégration, mais certainement pas pour une assimilation qui reviendrait à une dilution.
Est-ce qu'il y a d'autres questions prévues ? Non. Oui, madame, on va les prendre toutes ensemble, s'il vous plaît, parce que nous sommes un petit peu tenus par l'horaire maintenant.
Oui, j'aurais bien voulu savoir précisément, dans la loi 1905, monsieur Valls, qu'est-ce que vous pensez souhaitable de transformer, précisément ? Hier, on a demandé la même question et la fédération protestante a bien répondu précisément. Voilà, donc j'aimerais bien avoir cette... Oui, je sais, monsieur Korsia aussi dit que les rabbins ne demandent pas d'autre chose. Ok, donc quoi précisément ?
Je voudrais à la fois apporter des précisions et puis peut-être lever le malentendu. La précision en ce qui concerne la loi de 1905. L'article 19, modifié en 1942 et validé par le Conseil national de la Résistance, permet de financer l'ensemble des travaux de réparation des bâtiments construits avant ou après 1905. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une collectivité locale peut financer tout à fait des travaux de réparation d'une synagogue construite après 1905, de la Grande Mosquée de Paris, comme le fait aujourd'hui la mairie de Paris dans le cadre des travaux de réparation de la Grande Mosquée de Paris, mais ou tout autre bâtiment. Et qui plus est, et je parle devant André Damien, l'interprétation très ancienne du contrôle de l'égalité sur ce qu'on entend par réparation est extrêmement large, puisque on peut reconstruire un bâtiment incendié, pour des raisons accidentelles ou autres, totalement, en estimant qu'il s'agit d'une réparation, puisque cette réparation doit être entendue comme tout ce qui permet de préserver la liberté de culte. La seule chose qui est interdite par la loi de 1905 en termes de bâtiment, c'est l'investissement premier. Encore que l'habileté juridique tant des élus que de l'État a permis de considérer qu'on pouvait faire la différence entre la partie strictement cultuelle et la partie culturelle. Et ce qui fait que, bien évidemment, beaucoup de projets de lieux de culte sont aujourd'hui financés en partie par les collectivités locales, dans des montants qui peuvent aller jusqu'à 20% de l'ensemble du bâtiment, enfin, je veux dire, en moyenne, il n'y a pas de chiffres, mais de plafonds, mais là, et qui concerne la partie culturelle. Et il y a le fameux exemple de la cathédrale d'Évry, puisque c'est la jurisprudence cathédrale d'Évry, avec l'affaire du musée d'art sacré, qui a été financée en partie sur la base d'une subvention du ministère de la Culture, qui était à l'époque une subvention substantielle pour faire ça. Mais des tas de mosquées sont construites aujourd'hui sur ça. En ce qui concerne le problème des carrés, bien évidemment, je n'ai aucune appréciation sur la portée ou non de la mixité dans l'espace social. Ce que je veux dire, c'est que l'État est quand même tenu de faire en sorte que la liberté individuelle des gens ne soit pas entravée par une autorité religieuse. Elle peut l'être, dès lors que cette autorité religieuse fait pression sur un élu local pour empêcher un des deux époux de rejoindre son époux dans un carré confessionnel, sous prétexte qu'il ne partageait pas la religion de son époux. Là où je pense qu'il y a une radicalisation mauvaise, c'est quand elle part d'un côté dans l'espace laïque, et Manuel Valls a raison de souligner les difficultés qu'on a dans l'espace laïque, soit de gens qui disent la loi de 1905 interdit tout regroupement et circuler, il n'y a rien à voir. Mais de l'autre côté, quand il y a une affirmation religieuse identitaire qui fait que, par exemple, le souhait d'être enterré dans le carré confessionnel nommé s'accompagne en plus de la volonté, par exemple, d'y mettre une croix. Il y a un juste équilibre qu'il faut savoir trouver, c'est-à-dire qu'on peut bien évidemment enterrer la personne à côté de son mari, on n'est pas obligé de nélaturer l'ensemble du carré. Voilà. Mais c'est de l'ordre de la pratique. Voilà. Et ce qui est dangereux, c'est la dérive des pratiques de part et d'autre qui remettent en cause l'idée de compromis, en tout cas de l'interprétation administrative qu'on en fait.
Bien, je vous remercie. Si vous voulez ajouter quelques mots. Non, je crois pas.
Il y a un monsieur là-bas.
Ah oui, pardon. Mais je vais vous demander d'aller très vite, s'il vous plaît. Posez simplement une question.
Je serai très rapide. Simplement pour demander à monsieur le maire qu'il apporte une réponse, pas seulement à cette question des lieux de culte ou des cimetières, mais au problème des quartiers difficiles, où les jeunes, ce qu'ils demandent, ce n'est pas forcément une mosquée ou des cimetières, c'est être reconnu, premier point, et deuxièmement, avoir du travail. Donc je ne voudrais pas que ce débat sur la laïcité tourne uniquement sur la question des lieux de culte et des cimetières. Merci beaucoup.
Bien, merci. Alors, si vous voulez, monsieur le maire...
Très vite, alors, en partant de la dernière question, évidemment, enfin, ce n'est pas un débat sur les problématiques que nous venons de connaître. Ce que je crois, c'est si on veut lier ça à la laïcité, et pas uniquement exclusivement aux problématiques sociales, c'est que je crois que ce pays a besoin de réfléchir sur ce qu'on appelle faire France. C'est-à-dire que dans ma propre ville, je ne suis pas un exemple isolé, enfin en tout cas j'espère, c'est une ville qui organise une cérémonie annuelle pour accueillir les nouveaux naturalisés, c'est une ville qui a organisé la semaine dernière une soirée pour ses 500 jeunes diplômés du CAP au doctorat, avec tous les jeunes de la ville qui sont de toutes les couleurs et de toutes les origines sociales et de tous les quartiers. Bref, pour aller vite, la laïcité ou la République, c'est le mérite, c'est la réussite, c'est les valeurs partagées, c'est aimer ce pays, c'est chanter la Marseillaise, c'est pas regarder le passé, c'est regarder l'avenir, mais c'est savoir pourquoi on est français. et comment faire en sorte qu'on aime ce pays, que ce pays vous aime. Ça va, je vais très vite, et donc, évidemment, mais je ne pense pas que dans une société, il n'y ait que le boulot et la formation, évidemment. Mais je pense que le problème d'identité que nous avons est un peu plus grave que ça. En tout cas, en deux minutes, on ne peut pas le traiter. C'est une question plus lourde. Et moi, je le traite dans mon livre, et d'autres le font beaucoup mieux que moi, mais il y a dans le monde qui est le nôtre, après l'échec des grandes idéologies, l'effondrement du communisme, etc., le réveil spirituel, le réveil des religions qui prend des formes très différentes. Hein. Dans la partie sud de l'Afrique, il y a aussi des mouvements chrétiens évangéliques très impressionnants et très inquiétants, qui sont aussi en train de changer beaucoup de choses. L'entourage du président Gbagbo, essentiellement aujourd'hui, fait de pentecôtistes. Celui du président du Bénin, qui était là en visite il y a quelques jours à Paris, également. Et tout cela sont des germes aussi de confrontation, d'affrontement. Bref, et je pense qu'une société, je ne sais pas, pour parodier Régis Debray, a besoin de croire en quoi, je ne sais pas, ça je laisse à chacun, mais en tout cas, la question de l'identité collective ou individuelle sont des questions lourdes qui ne peuvent pas être réglées uniquement à travers les problématiques sociales, même si elles sont très importantes. J'ai parlé d'intégration et d'assimilation, mais pour faire référence à ce qu'était peut-être le modèle républicain français tel qu'on pouvait le concevoir, c'est-à-dire au fond, qui, oui, assimilait. Moi, j'en suis aussi l'exemple, à travers l'école de la République, assimilation, c'est-à-dire au fond, et c'était comme ça, et ça concernait, sauf cette fameuse Alsace qu'on évoquait, toutes les régions. C'est des mots que je n'utilise plus. Le mot intégration ne veut rien dire, surtout quand il s'agit de jeunes français, en grande majorité en tout cas, ou des jeunes citoyens immigrés, mais qui ont vocation, comme on dit, à rester sur notre sol. Donc, c'est les mots. Moi, je parle de citoyenneté. C'est, je crois, le meilleur lien qu'on puisse faire avec laïcité. Loi 1905, très vite, hein, parce que M. Cluzel m'a dit de faire court. Non, en plus, il y a un autre président, donc sur la loi 1905, moi, c'est par goût de la provocation que je pose le débat. Parce que, vous êtes un peu un exemple, monsieur. C'est-à-dire qu'au fond, vous nous dites, faut contourner, quoi. Faut s'adapter. Mais bon, c'est vrai qu'une société, même cartésienne comme la nôtre, elle a ses propres contradictions et ses complexités. Mais attention, moi, je ne veux pas être hypocrite. Il y a le problème de l'islam aujourd'hui. Alors peut-être ça peut concerner d'autres religions. Mais aujourd'hui, il y a une problématique qui est celle de l'islam. Moi, je ne crains pas les religions. Ce que je crains avant tout, ce sont les hystéries identitaires. Je ne pense pas que les religions aujourd'hui soient un danger pour la société. Je suis agnostique, je ne pratique pas. Je ne crois pas qu'on ait, évidemment, chacun ses intégrismes, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'Église catholique, ni avec les protestants. Il y a sans doute demain peut-être des problèmes avec ces mouvements évangéliques que j'évoquais. Mais la petite dose en France, il y a des problématiques avec les mouvements sectaires qu'on ne peut pas comparer à des églises. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec le judaïsme. Mais il y a une problématique lourde avec l'islam. Très lourde, parce qu'elle est dans un contexte mondial, depuis 30 ans. Quand on manie ces mots, c'est déjà très dangereux. Hein. Moi, j'affirme cette conviction dont je vous faisais part. Nous pouvons faire la démonstration en France, dans la République laïque, que l'islam peut se développer, peut s'épanouir au nom de nos valeurs. Mais c'est un enjeu considérable à l'échelle de la planète. Ce serait un grand pays démocratique comme le nôtre qui poserait enfin les jalons de cette symbiose qui n'existe pas, parce que l'islam, pour aller très vite, contrairement aux autres religions, a commencé par la Renaissance et aujourd'hui dans le Moyen-Âge. Il faut avoir ce courage, il faut le dire. Et il faut aider ceux qui veulent une renaissance de l'islam dans le cadre des valeurs démocratiques. Eh bien, je dis tout simplement, faisons en sorte. Alors certains disent, c'est concordataire, c'est l'État. Et alors ? Oui, il faut former les imams. Oui, il faut une organisation de l'islam transparente. Oui, il faut des financements qui soient public ou des fidèles, en tout cas transparents et contrôlés. Oui, il faut un plan sur 5 ou 10 ans qui permette, avec souplesse, intelligence, de manière démocratique, la construction, l'édification, l'entretien de lieux de culte adaptés à notre urbanisme, à nos paysages, pour construire cet islam français. En disant ça, je mesure évidemment les immenses difficultés dans lesquelles se débat, notamment Didier Leschi et nous tous sur le terrain. Mais c'est ça l'enjeu principal. Parce que si on laisse faire, je ne crois pas qu'au bout du bout, ce sera la République qui sortira gagnante. Et c'est pour ça que c'est un enjeu qui est à la fois religieux, c'est un enjeu qui est éminemment politique, et pas uniquement à l'échelle nationale.
Bon, merci, monsieur le maire. Alors, si vous le voulez bien, je vais donner la parole à monsieur Jacques Pélissard, maire de L'Aulne-Saunier et député du Jura, mais qui nous rejoint en sa qualité de président de l'Association des maires de France. Cette association qui a été créée en 1904, donc nous avons à peu près le même âge, la loi sur la séparation et la création de l'association, laquelle association s'est réunie la semaine dernière avec de nombreux maires qui allaient voir tantôt leurs députés et tantôt leurs sénateurs. Peut-être davantage les sénateurs que les députés, du reste, pour les réseaux que nous savons. Et vous avez, Monsieur le Président, consacré beaucoup de temps à cette étude. Et si vous le voulez bien, je vais maintenant vous donner la parole. Et après, si nous avons un petit peu de temps, nous pourrons reprendre le débat. Sinon, nous clôturerons la séance de façon à ne pas vous renvoyer trop tard. Monsieur le Président, vous avez la parole.
Merci.
Et en vous remerciant de votre présence.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mon cher collègue Emmanuel Valls, je suis très, très honoré d'être devant l'Académie des sciences morales et politiques. Et on m'a demandé de vous parler de la laïcité sur le terrain, et le mot est entre guillemets, sur le terrain communal. Alors c'est vrai, je n'ai pas eu le plaisir d'entendre donc, mon collègue Valls, donc peut-être y aura-t-il des redites, parce que par rapport à la conclusion qu'il a tenue, nous ne sommes pas très loin, même si nous ne siégeons pas sur le même banc de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est effectivement l'une des richesses de notre vie politique nationale, l'une des richesses de la République française. Alors la laïcité sur le terrain communal, je crois qu'il faut commencer au départ, il faut commencer donc à la naissance de l'enfant, et puis voir les différentes étapes donc, de cette laïcité la française, qui me paraît devoir être caractérisée, si je puis dire, par trois piliers. Le premier pilier, c'est la liberté du culte. Et je crois qu'il est essentiel d'affirmer, et la loi de 1905 le précise bien, la loi du 9 décembre 1905 affirme bien la liberté de culte, premier point. Deuxième point, il faut aussi, au-delà de la liberté du culte, la séparation de l'Église et de l'État. Sans séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas de véritable liberté de culte. Et puis le troisième élément, le troisième pilier, qui complète les deux premiers, c'est la nécessaire liberté d'expression. Donc la laïcité, dans ma vision des choses, c'est bien l'ensemble cohérent et global de ces trois dimensions, liberté de culte, séparation de l'Église et de l'État, et liberté d'expression. Alors, par rapport donc à cette définition, quels sont donc les éléments donc, qui traversent la vie d'un homme, de sa naissance à sa vie et à sa mort? Alors, la naissance pose pas de problème. En général, au niveau de l'état civil, il y a une déclaration, il n'y a pas d'identification, la loi d'ailleurs prohibe, et c'est bien, c'est une bonne chose, donc de la religion, il y a uniquement l'identification du nom de la mère, peut-être parfois, j'espère souvent, du père, l'identité donc de l'enfant qui est né, et puis l'identité de l'officier d'état civil qui a donc reçu la déclaration. Donc pour la naissance, pas de problème. C'est après que les problèmes se posent. Par exemple, au niveau du mariage. Moi, j'ai eu le cas en particulier donc de candidats au mariage qui, après les procédures qui sont essentiellement écrites devant les services d'état civil, arrivent voilés au mariage. Et cela n'est pas tolérable, à la fois sur le principe donc du respect de la laïcité, de la prohibition du foulard, du voile dans notre droit français maintenant, et ce n'est pas acceptable non plus, simplement sur le droit du mariage tout court, puisqu'il y a des témoins dans le mariage. Moi, j'explique toujours, quand je fais des mariages aux témoins, à quoi ils servent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et je leur dis, mais vous êtes les témoins non seulement du consentement, mais les portes sont ouvertes, donc tout le monde peut constater le consentement, vous êtes surtout les témoins de l'identité. Parce que moi, je ne demande pas la carte d'identité, le passeport, que sais-je encore, ou le permis de conduire, de tel ou tel, donc postulant au mariage, le mari ou la femme. Les témoins sont les témoins de l'identité. Donc, pour constater l'identité, il faut que donc, la mariée en particulier ne soit pas voilée. Donc, je crois, sur ce registre, il nous faut être très précis, très rigoureux dans notre office, donc de maire, dans l'exercice de nos missions d'officier d'état civil. Par contre, tout ce qui entoure le mariage, les you-you en particulier, c'est un signe d'allégresse, c'est pas un signe d'approche religieuse, et je crois que donc, tout cela doit être apprécié à l'aune précisément donc, des règles que je viens de vous décrire. Troisième étape, si je puis dire, et je reviendrai sur la vie de la personne elle-même, c'est le décès. Alors, en ce qui concerne ma ville, par exemple, et c'est ce à quoi j'encourage mes collègues, bon, je crois qu'il faut respecter dans les cimetières des zones en fonction donc, des aspirations religieuses de telle ou telle famille de personnes décédées. Dans ma ville, qui est une petite ville, la ville en Saussonnier, c'est la petite mais vraie capitale du département du Jura, il y a un carré musulman, il y a un carré juif, il y a une zone pour ceux qui souhaitent être incinérés, il y a d'ailleurs un crématorium, il y a une zone de columbarium, il y a toute une série, si vous voulez, donc de dispositifs en termes cinéraires qui permettent de répondre en respectant leur volonté aux aspirations philosophiques et religieuses des personnes décédées et des familles donc, qui les portent en terre. Je crois que c'est comme cela, sans interpénétration des carrés. Je crois que le carré, il y a un carré juif qui est à proximité du carré musulman, et il n'y a pas de problème. Et il y a donc un crématorium qui est à l'entrée du cimetière et des columbariums qui sont disséminés dans l'ensemble du cimetière. Je crois que là, il faut respecter à la fois l'identité des zones et la nécessaire mixité du cimetière. Troisième point, au-delà de la naissance et du mariage, du décès, et donc... Par coup de projecteur, Monsieur le Président, sur la vie de l'homme, toute une série de points se posent, toute une série de problèmes se posent à un maire qui doit faire respecter la laïcité sur son terrain communal. Tout d'abord, c'est l'école, avec plusieurs exemples. Premier exemple, c'est celui que nous vivons actuellement, il n'est pas réglé, et il est né, ce problème, d'un amendement d'un sénateur, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas suspecter de cléricalisme aigu, qui est Michel Charras, qui a fait voter un amendement dans la loi du 13 août 2004, qui impose, par exemple, c'est l'article 89 de la loi du 13 août, donc le financement de toutes les écoles privées, confessionnelles en particulier, lorsque la commune donc, de résidence de l'enfant donc, voit ses enfants donc, être scolarisés dans une autre école, d'une autre commune, donc dans le secteur privé. Donc là, ça pose un vrai problème par rapport à la règle donc, de la laïcité de notre pays. Premier exemple. Deuxième exemple, s'agissant des enfants, c'est classiquement, je ne sais pas si Manuel Valls en a parlé, le problème de la restauration scolaire, où de plus en plus nous avons à faire face à des demandes donc de régimes, j'utilise à dessein ce mot assez neutre, de régimes particuliers. Alors plusieurs solutions sont possibles, et les maires ont pu choisir soit des régimes spécifiques, sans porc en particulier, soit au contraire, ce que pour ma part j'ai mis en œuvre dans ma propre ville, c'est le principe d'un régime unique, sans régime spécifique. Par contre, un mois à l'avance, donc, les régimes sont portés, les menus sont portés à la connaissance des familles lors de l'inscription des enfants donc, pour la restauration scolaire du mois qui vient. Et donc, l'enfant peut très bien ne pas être donc, présenté donc, au restaurant scolaire ce jour-là. Ou alors, il y a un système alternatif que nous avons mis en place, soit pour les enfants qui sont donc justiciables d'un régime en fonction des allergies qu'ils présentent. Donc il y a un demi-tarif qui est mis en place pour que la famille donne à l'enfant donc, les produits donc, compatibles avec son régime pour des raisons d'allergie ou pour des raisons d'appartenance à telle ou telle religion. Donc il y a un repas par semaine où effectivement le problème en particulier du porc se pose. C'est cantonné donc, à une seule journée connue à l'avance et qui peut donner donc le lieu à un régime alternatif en fonction des convictions des parents. Sachant que pour les enfants en primaire, puisque les communes ne sont compétentes qu'en primaire, le problème de l'application d'un régime, dans son principe lui-même, se pose. Autre exemple, c'est le fonctionnement donc, des cultes. Alors sur ce registre, moi je pense, et je crois que c'est la position des maires de France, qu'il faut être très ouvert. La laïcité, c'est le respect donc, des cultes. Ce n'est pas l'aide systématique aux cultes. En tout cas, c'est l'égalité de traitement des différents cultes. Donc, pour avoir une formule un petit peu imagée, moi, dans ma propre ville, j'ai prêté une salle pour l'ordination d'un évêque, puisqu'il s'agissait d'une ordination avec un nombre important de fidèles, 4000 personnes. Donc, on a prêté une salle accueillant 4000 personnes, comme j'ai prêté des salles donc, pour le ramadan, ou pour les obsèques d'un responsable et d'un dignitaire franc-maçon. Donc je crois que c'est ça la laïcité dans la vision pratique que nous conjuguons sur le terrain communal, c'est effectivement l'ouverture, mais aussi le respect d'un nécessaire principe d'égalité. En ce qui concerne donc, les lieux de culte, moi, pour rebondir sur ce qui a été dit quand je suis arrivé tout à l'heure, moi je pense, c'était évoqué par un ministre en exercice à l'heure actuelle, il ne me choque pas qu'une commune puisse aider, contribuer donc au financement d'un lieu de culte. Je pense que c'est une démarche, c'est la déclinaison de l'article 19, donc modifié donc en 52 de la loi du 9 décembre 2005. Ça me paraît une démarche responsable. Je crois que si l'on veut éviter la montée donc de communautarismes identitaires, je crois qu'il est important effectivement qu'on puisse donc permettre cette liberté d'exercice des cultes. D'autres exemples de difficultés peuvent être rencontrés par rapport à la laïcité dans la gestion de nos personnels. Un jour, j'ai eu le problème d'un professeur de musique qui était un militant extrêmement convaincu sur le plan religieux, qui refusait, j'ai découvert d'ailleurs cette démarche grâce à ce problème et ce dossier que j'ai rencontré avec lui, qui refusait, en tant que professeur de musique, de jouer certaines notes. Puisque dans les partitions de musique, il y avait, m'a-t-il expliqué, j'ai reçu, avant de le sanctionner, je l'ai sanctionné, il y avait certaines notes du diable. Et les notes du diable l'empêchaient de jouer les partitions de musique en question. Et il expliquait ça à ses élèves en disant, moi je suis donc un catholique extrêmement fervent, extrêmement militant, je ne refuse de jouer les notes du diable. Et je l'ai, et je suis pas agnostique, moi j'ai une tradition familiale catholique, mais j'ai considéré qu'il n'était pas acceptable que dans l'exercice de sa profession, quand bien même il s'agissait de l'enseignement de la musique, on puisse faire donc interférer ses propres visions donc confessionnelles, ses propres convictions religieuses, et donc les sanctionner. Et depuis, il ne joue pas les notes du diable, en tout cas il ne fait pas de prosélytisme à l'encontre donc, de certaines partitions en évoquant donc, ses propres convictions religieuses. Deuxième exemple en ce qui concerne l'enseignement, c'est le fait là aussi que dans le cadre de ses fonctions professionnelles, aucun agent, féminin en particulier, n'a le droit de se présenter avec ses convictions religieuses, affirmées en particulier avec le port du voile. Moi, je l'avais dit avant la loi, et maintenant, la loi nous a apporté un atout juridique important et tout à fait intéressant pour affirmer donc ce principe de neutralité et donc de laïcité de la fonction publique territoriale. Voilà, Monsieur le Président, à grands traits, ce que je voulais rapidement vous dire. Je termine en répondant à la question qui a été posée par rapport à nos banlieues. Je crois que les banlieues, et on a, au cours du Congrès des maires de France, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à juste raison, donc consacré beaucoup de temps à essayer d'analyser ce qui s'était passé. Et si on résume, je crois qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Mais ils se conjuguent vraiment. Il y a dans les banlieues, et c'est vrai, moi j'ai une zone urbaine sensible qui est une petite zone de 5000 habitants, il y a dans ces banlieues de vrais phénomènes d'exclusion professionnelle. Bon, ça, c'est une réalité. Et par rapport à ces phénomènes d'exclusion professionnelle, il y a, pour les compenser, pour les accompagner, parce qu'il faut effectivement, pour ces jeunes souvent, trouver des compensations ou des voies d'avenir pour leur propre personnalité, il y a la montée de communautarisme et d'identité communautaire. Et je crois que par rapport à cela, notre rôle, moi je l'ai dit devant le Congrès des maires de France, je l'avais dit quand nous avons été reçus la veille par le président de la République, donc le lundi soir, qui a présidé le Congrès, donc la semaine dernière, il nous faut effectivement, nous, employeurs publics, l'État le fait un peu, dans certains secteurs des forces de l'ordre surtout, mais nous, collectivités locales, il nous faut absolument affirmer la nécessité de donner des pistes d'avenir professionnel à tous les talents de nos quartiers. Donc je crois que dans nos recrutements municipaux, il est essentiel que nous décidions, c'est pas toujours facile, je le raconterai pour ma propre ville, il est essentiel que nous décidions d'engager des jeunes issus, dont les parents sont issus d'immigration. Sinon, on n'affirme pas la possibilité de voie d'avenir. Alors moi, je l'ai fait. Ma propre secrétaire est une jeune femme d'origine turque. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais son prénom s'appelle Berna. Et quand je l'ai recrutée, c'est ma secrétaire depuis 2 ans maintenant, il y a eu un phénomène de rejet au sein des services municipaux. Les bons fonctionnaires, y compris syndiqués, de la mairie, n'était pas forcément enthousiaste à l'idée de voir arriver une jeune Turque. On a dit à la directrice des ressources humaines, elle s'appelle Berna, qu'est-ce que ça veut dire Berna? Et la directrice des ressources humaines a une illumination. Elle a une illumination, elle dit, mais Berna, c'est le diminutif de Bernadette. Alors, du coup, tout est passé. J'ai raconté cette anecdote au président de la République, que ça a beaucoup fait rire, donc lundi dernier. Et c'est vrai qu'en recrutant comme ça une jeune fille d'origine turque, une autre qui s'appelle Zora, d'origine marocaine, qui est française maintenant, d'ailleurs, pour être fonctionnaire, il faut être français, donc elles sont françaises, et une jeune fille d'origine marocaine, puis un autre garçon d'origine algérienne. Mais je crois qu'on peut donner des pistes d'avenir. Et moi, j'ai touché du bois partout, j'ai pas eu de voiture brûlée, il y a eu vraiment dans nos quartiers, dans les quartiers de cette zone urbaine sensible de ma ville, une vraie cohésion sociale qui s'est affirmée. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi de montrer des pistes d'avenir. Et je crois que ces pistes d'avenir professionnelles, elles sont essentielles. On ne pourra pas recruter, bien sûr, tous les jeunes de ces quartiers. pourra pas. Par contre, il faut montrer que quand il y a des compétences, quand il y a des talents, quand il y a des volontés de réussite professionnelle, de passer des concours, moi je suis recruté comme agent technique, comme agent administratif, donc sans concours, et depuis, ils se sont inscrits, ils passent des concours. Quand il y a cette volonté de s'impliquer, eh bien, il y a des voies d'avenir. Je crois que c'est ça l'antidote donc, aux difficultés de cohésion sociale que nous avons rencontrées dans nos banlieues. Voilà, Monsieur le Président, un grand trait, mais en étant heureux d'ouvrir avec vous le débat, certains des coups de projecteur que je vous donnais sur les responsabilités, les domaines d'action d'un maire qui a chaque jour à recoudre le tissu social. Mais pour recoudre le tissu social, mais il faut respecter des bases, des valeurs fondatrices de notre société, et la laïcité est l'une de ces valeurs fondatrices essentielles. Merci.
Monsieur le Président, je vous remercie au nom de mes confrères et des participantes et des participants cet après-midi. Je vous remercie de tout cœur pour votre exposé, mais aussi, si vous me permettez, pour votre présence, car la semaine dernière, vous présidiez votre congrès avec des milliers de maires devant vous, adjoints, conseillers municipaux, représentant ces 36 000 communes de notre pays. Nous savons ce que nous devons à l'armature communale au sein de la République. Et nous savons que ces communes permettent à la République de dépasser nos difficultés actuelles. Et je vous en remercie de tout cœur pour vous et pour tous vos collègues, les 36 000 maires de France. Il nous reste une dizaine de minutes, mesdames et messieurs, si vous souhaitez. Alors, monsieur, puis madame, voilà. Et madame, pardon, attendez, si vous permettez, madame la présidente, je vous en prie. Merci.
Monsieur le maire, bonjour. Donc je suis, comme vous êtes arrivé après mon intervention, je suis magistrate. Et moi aussi, dans mes fonctions, j'ai de recoudre le tissu social qui est brisé et parfois profondément brisé. Je tiens à souligner, en présence du président de l'Association des maires de France, combien j'ai apprécié le sang-froid, la proximité des maires, des difficultés de terrain dans les banlieues pendant les événements que nous avons vécus et dont la justice a eu à connaître dans des conditions de fonctionnement qui ne sont pas toujours très satisfaisantes quant aux garanties, notamment d'un procès équitable. Donc je tenais vraiment à vous remercier au nom de tous les maires, parce que tous ceux que j'ai entendus à la télé ou que j'ai vus à la télé ou que j'ai entendus à la radio, je leur dis chapeau, ils étaient présents sur le terrain, ben, c'était bien. Je tiens, par contre, à avoir une petite divergence avec vos propos, monsieur le maire, en ce qui concerne le port du voile tel que vous l'avez présenté. Il n'y a pas en France de texte qui prohibe le port du voile. Il y a simplement un texte qui concerne les écoles. C'est tout. Par contre, public, c'est tout. Il n'y a pas d'interdiction généralisée dans les espaces publics de porter un quelconque signe distinctif. Aucun, que ce soit la kippa, que ce soit la croix, que ce soit le voile ou tout autre pour des turbans ou autres, il n'y en a pas. Donc, personnellement, je ne vois pas sur quel fondement vous pouvez interdire à une mariée d'être voilée, alors que de surcroît, il y a fort longtemps que je me suis mariée, mais à l'époque, je portais aussi un voile quand je me suis mariée, et de surcroît, à l'époque, c'était la mode, j'avais un voile sur le visage quand je me suis mariée. Et c'était ma culture à l'époque, et jamais le maire m'a demandé de remonter ma voilette pour vérifier mon identité. Et d'une façon générale, quand on voit des religieuses qui sont également voilées, on ne leur demande pas forcément de retirer leur voile pour vérifier leur identité. Elles ne se marient pas, mais quand elles passent la frontière, on ne leur demande pas de retirer. Donc je crois que pour moi, je ne vois pas de légitimité à demander à une mariée de retirer son voile, sauf si bien sûr, vous ne voyez pas du tout son visage.